Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Many people on the street. Bonjour à tous. À 6 jours des élections européennes, c'est donc la crise au sommet de l'État autrichien, démission du vice-chancelier issu de l'extrême droite et convocation de nouvelles élections législatives, sans doute à l'automne prochain. Le scandale prend la forme d'une vidéo tournée à Ibiza en 2017. On y voit le numéro 2 du gouvernement, Heinz Christian Strache, proposer des contrats publics à une soi-disant oligarque russe en échange de financement pour sa campagne. Le politique réclame aussi le rachat du journal le plus lu d'Autriche afin qu'il suive sa ligne politique. Bref, tout est explosif dans ce qu'on appelle désormais l'Ibiza Gate. Céline Béal a suivi ce week-end les manifestations d'Autrichiens aussi sidérés qu'en colère.
Un tube du groupe Venga Boys de 1999 connaît une seconde jeunesse en Autriche. We're Going to Ibiza est devenue depuis ce week-end la chanson préférée des opposants au gouvernement. Plus de 5000 personnes s'étaient rassemblées dans l'après-midi de samedi devant la chancellerie à Vienne. Peu après midi, une acclamation s'est répandue sur la place lorsque la nouvelle de la démission du vice-chancelier est tombée. Pour beaucoup ici, la participation gouvernementale du FPE était dès le départ un scandale. La vidéo montrant Heinz Christian Strache prêt à une collusion avec la Russie et évoquant des méthodes dignes d'une dictature est pour eux la confirmation de ce qu'ils pensaient déjà. Et sa démission, une aubaine pour Sébastien, étudiant viennois.
C'est comme Noël en plein printemps. Enfin quelque chose qui refait croire en la démocratie. Il se passe enfin quelque chose de bien.
L'après-midi avance et le chancelier Sébastien Kurz fait attendre sa prise de position. Les manifestants et manifestantes crient Neuwahlen en direction de ses fenêtres pour réclamer des élections législatives anticipées. Même si la joie est généralement de mise, certains ont une mine grave, comme Regina qui est venue dès qu'elle a appris ce qu'il se passait en compagnie de son groupe de militantes du troisième âge, les mamies contre l'extrême droite.
Ça m'énerve l'insolence avec laquelle certains politiques, surtout d'extrême droite, sont prêts à vendre l'État et à prendre les gens pour des idiots. J'ai toujours été contre ce gouvernement, mais là on voit qu'on ne peut tout simplement pas diriger un État avec le FPE.
Le séisme politique a eu lieu une semaine avant les élections européennes et des représentants de tous les partis d'opposition sont rapidement apparus sur la place. La tête de liste des sociaux-démocrates est en basket t-shirt. Andreas Schieder se dit scandalisé par cette vidéo et espère qu'elle contribuera à ouvrir les yeux des électeurs.
Je crois que beaucoup des électeurs du FPE sont des personnes désespérées qui se sont laissées tromper. C'est pour cela qu'elles ont voté FPE. Mais je crois que personne ne peut souhaiter de tels comportements. Donc je suppose que beaucoup de personnes vont se détourner aujourd'hui du FPE et aussi des conservateurs.
Le candidat social-démocrate n'est pas le seul à dénoncer le rôle du chancelier conservateur. De nombreuses pancartes et banderoles interpellent Sébastien Kurz avec l'idée qu'il aurait dû connaître la nature de celui qu'il faisait entrer au gouvernement à ses côtés il y a un an et demi.
Ich war mir sehr wohl bewusst, dass der Weg mit der FPÖ als Regierungspartner Widerstand auslösen wird.
Dans la soirée, Sébastien Kurz fait enfin une déclaration. Dans une cour de l'université de Vienne, elle est retransmise sur un grand écran. C'est une initiative spontanée de la part d'un syndicat d'étudiants juifs. Ils avaient en réalité planifié de longue date un tout autre événement pour aujourd'hui. Résultat, la conférence de presse du chancelier passe entre une conférence sur le boycott d'Israël et le concours Eurovision de la chanson. Un des représentants des étudiants explique pourquoi ils ont décidé de montrer ce moment politique. Mike Moffat n'a jamais accepté l'arrivée d'Heinz Christian Strache dans le gouvernement.
Pour nous, en tant qu'étudiants juifs autrichiens, c'était un problème que quelqu'un qui a participé dans sa jeunesse à des exercices paramilitaires néo-nazis donne le ton au sommet de l'État. C'était un problème que ce quelqu'un tienne, il y a encore 2 semaines, un discours pour commémorer 1945, donc la fin de la Shoah, alors que nous savons qu'il y a 10 ans encore, c'était des nazis qu'ils commémoraient sur la place des héros. C'était vraiment douloureux qu'une telle personne soit au gouvernement. Aujourd'hui, il a démissionné. C'est un jour de grande joie.
Le chancelier annonce finalement qu'il met fin à sa coalition avec le FPE, au lieu de tout simplement continuer avec un remplaçant du vice-chancelier. Il annonce également que des élections anticipées seront bientôt tenues. Acclamation parmi la centaine de jeunes présents. Aileen, étudiante en histoire, reconnaît que ce vice-chancelier qui se compromet ainsi, ce n'est pas vraiment un motif de réjouissance. Et pourtant,
je ne suis pas heureuse de ce qu'il a dit, mais je suis heureuse que la vérité voie le jour. J'ai hâte de voir le résultat des élections anticipées.
Dans un coin, un homme en costume ne participe pas vraiment à la joie générale. Il est pourtant lui aussi contre ce gouvernement, mais pas très optimiste pour la suite. Simon Seiner.
Les élections anticipées sont une conséquence logique des événements. Mais je crois que ça ne va pas changer fondamentalement les choses au final. Le FPE va perdre une bonne partie de ses suffrages au profit des conservateurs et, si ça se trouve, on aura à nouveau une coalition avec les deux mêmes.
Avant les législatives, qui pourraient être organisées en septembre selon les prévisions actuelles, ce sont les résultats des européennes dimanche prochain qu'on observera ici. De très près.
You, the people, have the power. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite.
Et s'il est un pays qui voit encore l'Europe avec des étoiles dans les yeux, c'est bien l'Irlande. Le contraste est saisissant avec son voisin britannique. Mais en République d'Irlande, 9 citoyens sur 10 se déclarent favorables à l'UE. À Dublin, Julien Lagache nous explique les raisons d'un tel miracle.
Difficile de trouver des candidats eurosceptiques en Irlande. Les affiches placardées dans les villes se montrent optimistes et favorables à l'UE. Les principaux partis plutôt favoris dans la campagne pour les européennes revendiquent non seulement leur soutien à l'Union des 27, mais ils n'hésitent pas à critiquer leurs adversaires jugés moins pro-européens. L'opinion publique est au diapason. 85% des Irlandais disent se sentir européens, chiffre en constante hausse, tandis que plus de 9 personnes sur 10 jugent positif les bénéfices apportés par l'Europe depuis 1973. Et c'est une tendance de fond, car les chiffres varient relativement peu d'année en année dans les enquêtes d'opinion conduites par Bruxelles. La libre circulation des biens et des personnes, le marché et la monnaie unique, l'accès à des marchés internationaux constituent l'apport majeur de l'UE, estime l'opinion en Irlande, dont l'économie est l'une des plus dynamiques et attractives du continent grâce également à son faible taux d'imposition sur les sociétés. Il y a bien eu une perte de confiance entre 2011 et 2014 après la crise des dettes souveraines, mais Bruxelles n'a pas pour autant perdu la cote car le tigre celtique a vite renoué avec la croissance et aujourd'hui le Brexit a même renforcé la confiance des Irlandais envers l'Europe. En effet, elle n'a cessé d'apporter un soutien indéfectible et de poids à Dublin dans les négociations du divorce afin de préserver la libre circulation entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord britannique, une garantie pour la paix et la prospérité sur toute l'île. Seul bémol dans ce scrutin européen, le risque de se retrouver noyé dans une journée riche en enjeux électoraux. Le 24 mai, les Irlandais votent aussi pour des élections locales ainsi que 2 référendums. Peu de chance que cela profite en revanche à l'Irexit Freedom Party, la toute nouvelle formation qui fait campagne pour la sortie de l'UE. Elle est très marginale dans le paysage politique irlandais et ne présente que 2 candidats sur les 59 engagés.
Et en Italie, un curieux débat renaît en marge de la campagne pour les élections européennes, celui de la lutte contre les vaccins obligatoires. On se souvient que le mouvement 5 étoiles, aujourd'hui dans la coalition gouvernementale, en avait fait un de ses arguments clés avant son élection. Aujourd'hui au pouvoir, il est beaucoup plus discret sur la question, si bien qu'un nouveau parti a vu le jour, avec pour unique programme la fin de la vaccination imposée à tous. Il vise surtout les prochaines élections régionales. Reportage à Modène, en Émilie-Romagne, signé Cécile Debarge.
Il s'appelle le Movimento Trivu, le mouvement 3V pour Vaccini Vogliamo Verità, nous voulons la vérité sur les vaccins. Alors que la campagne pour les élections européennes bat son plein, cette petite formation, officiellement constituée au mois de janvier, vise plutôt les élections régionales de novembre prochain, avec l'espoir d'influencer les politiques au pouvoir, explique Alessandra Bocchi, membre du parti.
Le mouvement 5 étoiles et la Ligue sont revenus de manière assez violente et soudaine sur toutes les promesses qu'ils avaient faites dès lors qu'ils ont accédé au pouvoir. Et on s'est retrouvés devant une situation de vide politique. Non pas qu'avant on avait une confiance aveugle en eux, mais désormais, plus aucun parti politique ne s'occupe de la liberté de se vacciner ou non. Il n'y a plus aucune opposition.
Parmi les députés du mouvement 5 étoiles, une députée en particulier portait haut et fort le combat contre la vaccination obligatoire. Il s'agit de Sarah Cugnal, expulsée du parti le 17 avril dernier. Elle avait d'abord été exclue des listes du parti après avoir partagé sur les réseaux sociaux des contenus contre la vaccination obligatoire.
L'Italie est le chef de file mondial en termes de politique pro-vaccin et pour nous, c'est aussi un symbole important d'avoir un parti qui se bat pour la liberté de choisir si on se vaccine ou pas et pour la liberté de choix en général, qui plus est en Émilie-Romagne, qui est le lieu sacré des pro-vaccins les plus radicaux.
Massimo Rodolfi est écrivain et éditeur. À 63 ans, il fait partie des 12 personnes à avoir imaginé et lancé le mouvement 3V.
Pour nous, c'est la dernière ligne droite. C'est vraiment une question de liberté au sens général du terme, mais cela relève aussi du droit à disposer de son corps.
Le programme est simple et résumé par Alessandra Bocchi, mère d'un enfant scolarisé à l'école primaire et elle aussi membre du mouvement 3V.
Premier point, abrogation de toutes les lois qui instaurent l'obligation de se vacciner. Deuxième point, respect de la responsabilité parentale. Ça veut dire que les parents sont libres de leur choix et qu'ils sont les seuls à pouvoir prendre des décisions pour leurs enfants. Troisième point, garantie de la liberté d'expression pour les médecins et chercheurs scientifiques, car pour le moment, ils peuvent être signalés à l'ordre des médecins, puis radiés.
Un texte provoque l'inquiétude des militants contre la vaccination obligatoire. C'est le décret-loi 770 à l'étude en ce moment au Sénat italien et que dénonce Massimo Rodolfi.
Il y aura la création d'un décret législatif qui rendra la situation encore plus critique parce qu'ils vont étendre l'obligation à d'autres groupes de population et non plus seulement les mineurs, comme c'est le cas aujourd'hui. Donc en résumé, cela aggravera les choses.
Le point le plus sensible, c'est l'exclusion des enfants non vaccinés des écoles, un chantage sanitaire que dénoncent de nombreux militants. Pour le moment, le mouvement 3V apporte son soutien aux parents qui rencontrent des difficultés pour faire admettre leurs enfants à l'école s'ils ne souhaitent pas les vacciner.
On a écrit des lettres avec un avocat de confiance, mais ensuite le bras de fer s'est tendu. C'est devenu violent. On a donc commencé à soutenir des pratiques éducatives alternatives.
La question fondamentale pour les parents, explique Alessandra Bocchi, c'est de se demander jusqu'où ils sont prêts à aller pour ne pas faire vacciner leurs enfants.
On demande la liberté de choix thérapeutique. Mais ensuite, il faut assumer les conséquences des choix qu'on fait. Et ce n'est ni facile ni évident, mais il faut le faire.
Cette liberté de choix thérapeutique est pourtant extrêmement polémique, car les partisans de la vaccination défendent le principe d'immunité de groupe, selon lequel, lorsque la couverture vaccinale atteint 95% de la population, une maladie ne se propage plus au sein de la population. Cela a été particulièrement mis en avant pour la rougeole, la maladie la plus symbolique dans le débat autour des vaccins obligatoires. Mais Massimo Rodolfi balaie d'un revers de manche les accusations selon lesquelles les opposants aux vaccins obligatoires feraient revenir la maladie.
Eh bien, il y a des tas de cadavres dans les rues. Ça se voit, non? Plus sérieusement, si l'immunité de groupe était scientifiquement prouvée, alors il n'y aurait pas eu récemment en Mongolie une épidémie de rougeole de 30 000 personnes, alors que presque toute la population est vaccinée. Ces maladies infectieuses suivent des pics, des tendances et des cycles.
Les plus grandes réticences des opposants à la vaccination sont les effets secondaires des vaccins qu'ils décrivent comme suit. Mutation des virus, complications de santé, voire des maladies comme l'autisme, mais aussi conflits d'intérêts entre autorités sanitaires et laboratoires pharmaceutiques. Là encore, la communauté scientifique est divisée, mais Massimo Rodolfi demande l'ouverture d'un débat scientifique.
C'est une politique qui se base sur la peur et le mensonge. L'objectif est de diviser les parents et de les monter les uns contre les autres alors que les situations sont complexes. Et si on voulait véritablement appliquer un point de vue scientifique, il faudrait comparer les différentes études réalisées sur le sujet.
Pour le moment, plus de 200 personnes ont adhéré au mouvement 3V qui fait un tour d'Italie pour exposer ses idées. Si les élections régionales sont prometteuses, le parti pourrait bien viser d'autres élections et d'autres sujets que la vaccination.
Une fois que nous aurons atteint notre objectif, on pourra changer le nom du parti. Mais pour le moment, et étant donné l'urgence, on sait qu'on doit se concentrer uniquement sur ce point.
L'obligation de présenter les certificats de vaccins obligatoires dans les crèches et écoles maternelles sera effective à la rentrée scolaire prochaine en Italie.
Je crois en l'idée de solidarité en tant que principe fondamental de toute société.
T'es leur petit réfugié, chéri.
Eden, votre nouvelle série.
Et la question migratoire qui sera une des clés du scrutin européen a débarqué sur nos écrans avec une série Eden tournée en 4 langues dans 7 pays européens. En France, elle est diffusée sur la chaîne Arte. Son réalisateur Dominique Moll a voulu au travers de plusieurs portraits explorer sans manichéisme la problématique de l'exil. Et comme il l'a raconté à Catherine Roland, la première scène sur une plage résume assez bien la rencontre de deux univers.
Cette scène m'a été inspirée d'une vidéo amateur et qui avait été tournée en Espagne, enfin sur une plage près de Cadiz, et on voyait une plage avec des touristes qui passent leurs vacances. Tout à coup, un canot qui arrive, une quarantaine de migrants qui sautent du canot, qui traversent la plage en courant pour disparaître dans les collines derrière la plage. Et puis les vacanciers qui regardent ça, ne sachant pas trop ce qui arrive, enfin comme s'il y avait un débarquement d'extraterrestres tout à coup. En même temps, ce qui me plaisait dans cette vidéo, c'est qu'enfin l'attitude des vacanciers ne les condamnait pas, parce que voilà, ils étaient là, ils passaient sûrement des vacances bien méritées. Et ce qui m'intéressait, c'était cette confrontation de deux mondes, enfin qui tout à coup tombent l'un sur l'autre, et que voilà, à partir de ce moment-là, comment on va faire pour que chacun trouve sa place dans cette nouvelle situation.
Alors, il y a 5 trames de récits, en fait, qui représentent toute une palette de situations. C'est ce que vous vouliez représenter ainsi, la complexité de la question migratoire à travers le destin de plusieurs personnes.
L'idée, c'était vraiment d'ouvrir quelques fenêtres sur quelques destins, quelques situations, quelques problématiques qui ont à voir avec ce sujet. Donc, les personnages ne sont pas tous des migrants ou des réfugiés. Il y en a, évidemment, enfin, des réfugiés syriens, migrants, jeunes migrants nigériens, mais il y a aussi une famille allemande qui accueille un jeune homme syrien, et le personnage incarné par Sylvie Testu qui représente un peu le volet économique et financier de tout cela, puisque ça coûte aussi de l'argent, et elle, donc, elle joue une femme d'affaires qui gère un camp de réfugiés de façon privée, qui essaye à la fois de gagner de l'argent avec et de faire ça de façon correct, disons.
Toutes ces sociétés privées font en fait du business sur un marché très lucratif et qui vont vendre leurs projets à la Commission européenne.
C'est vrai que les fonds, enfin, qui financent les centres d'accueil ou les camps de réfugiés viennent des gouvernements ou de l'Union européenne, et il y a effectivement des sociétés privées qui font ça de manière assez cynique en essayant de se faire une marge la plus grosse possible sur ces camps de réfugiés.
Alors, on va revenir sur le quotidien du camp où sont accueillis des réfugiés comme le jeune Amaré et son frère. C'est très réaliste d'ailleurs.
Le camp se prénomme Elena, enfin, parce que le personnage donc de Sylvie Testu s'appelle Hélène, et elle veut que ça soit un camp un peu exemplaire, enfin en tout cas une vitrine, puisque c'est son premier camp qu'elle gère, et elle espère obtenir d'autres marchés pour élargir son business. En vérité, le camp où on a tourné près d'Athènes, et voilà, un peu moins exemplaire que ça.
J'aimerais justement conclure avec ce fameux Amaré. Ce jeune Nigérian, il a 16 ans et lui, il a un rêve, comme beaucoup de jeunes adolescents, c'est devenir footballeur en Angleterre. Et donc, il y a cette dernière scène où on le voit embarquer à nouveau dans un canot et partir à traverser la Manche.
C'est vrai que le film s'ouvre en fait avec l'arrivée d'Amaré sur cette plage d'une île grecque, donc en Méditerranée, qui débarque d'un canot, et la série se termine avec un nouveau départ, enfin sur une autre mer, la Manche. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on a écrit cette scène, quand on l'a tournée, il y avait encore relativement peu de cas de tentatives de traversée comme ça avec des petites embarcations, et depuis ça s'est vraiment multiplié, alors qu'évidemment la traversée de la Manche dans des embarcations comme ça est extrêmement dangereuse.
Eden, 6 épisodes à retrouver sur arte.tv jusqu'au 31 mai. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Les élections européennes, c'est aussi une série de 6 films animés qui décryptent les fake news à retrouver sur le site de RFI. À demain.